Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican.
Le compte Twitter du pape s'envole. Plus de 500 000 personnes se sont déjà inscrites pour suivre Benoît XVI. Le premier tweet du pape sera lancé en direct par lui-même le 12 décembre prochain. Polémique en France, la ministre du Logement a remis en cause la présence de l'Église dans le domaine de la solidarité. Le porte-parole de l'épiscopat français appelle à l'apaisement, vous l'entendrez dans ce magazine. L'unité de l'Église et des chrétiens, préoccupation majeure des organisateurs du congrès international Ecclesia in America qui se tiendra au Vatican du 9 au 12 décembre. Thésée se déplace à Rome. La prochaine rencontre européenne de jeunes aura lieu dans la capitale italienne du 28 décembre au 2 janvier 2013. Le programme officiel de la rencontre a été présenté ce mardi au vicariat de Rome. Les évêques irlandais montent au créneau. Dans une lettre pastorale, ils disent non à de nouvelles coupes dans les prestations sociales, non à la réduction des allocations familiales. Bienvenue dans ce nouveau magazine de Radio Vatican. Le compte Twitter du pape s'envole. Plus de 500 000 personnes se sont déjà inscrites pour suivre Benoît XVI, seulement 24 heures après l'annonce de l'ouverture de son compte, @pontifex. Rien que pour la langue anglaise, on enregistre 350 000 followers. Le premier tweet de Benoît XVI rédigé en anglais ne sera cependant lancé en direct par le pape lui-même que lors de l'audience générale du mercredi 12 décembre. Outre l'anglais, les tweets seront aussi rédigés entre autres en espagnol, italien, portugais, français ou encore allemand. Il s'agit pour l'Église de s'insérer dans un grand dialogue avec les hommes et les femmes d'aujourd'hui, a précisé le père Lombardi sur les ondes de Radio Vatican, Manuela Affigi.
Pour le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, la présence du pape sur Twitter représente un message clair. C'est un message destiné à tous. Ce n'est pas seulement celui de Benoît XVI afin de diffuser certaines de ses paroles. Par l'intermédiaire de Twitter, précise le père Lombardi, le pape invite toute la communauté à entrer dans cette nouvelle dimension de la communication et à être présent. Le pape donne l'exemple, il lance des messages, parfois les réponses que nous cherchons. D'où l'importance de la présence de l'Église sur le continent numérique. Avec les nouvelles possibilités de communication, il y a aussi possibilité de rencontres. Ces rencontres peuvent être superficielles, mais elles peuvent aussi être significatives et profondes, indique le père jésuite. C'est donc notre devoir, affirme le père Lombardi, de valoriser cette possibilité.
Manuela Affigi. Il y a 15 ans s'achevait le synode des évêques pour l'Amérique à partir duquel Jean-Paul II publia l'exhortation post-synodale Ecclesia in America. À cette occasion, mais aussi en cette année de la foi et en plein anniversaire des 50 ans du Concile Vatican II, la Commission pontificale pour l'Amérique latine et les chevaliers de Colomb organisent avec le concours de l'Institut supérieur des études guadeloupéens un congrès international Ecclesia in America, congrès qui se tiendra au Vatican du 9 au 12 décembre. Déjà en 1992, Jean-Paul II affirmait que l'Église, désormais au seuil du troisième millénaire chrétien et à une époque où tant de barrières et frontières idéologiques sont tombées, perçoit comme un devoir impérieux d'unir bien davantage spirituellement tous les peuples qui forment ce grand continent et en même temps de promouvoir un esprit de solidarité entre eux en partant de la mission religieuse qui lui est propre. L'unité de l'Église et des chrétiens semble bien la préoccupation majeure des organisateurs de ce congrès, Xavier Sartre.
Sécularisation, prolifération des sectes, impact d'une culture mondiale lointaine, les défis ne manquent pas pour l'Église, quel que soit le pays du continent concerné. Les problèmes sont communs donc et les dossiers doivent être affrontés via une communion et une coopération plus grandes. Que ce soit l'immigration, le trafic de drogue, l'augmentation de la violence, la défense de la vie et de la famille ou la liberté religieuse, tous les Américains sont concernés et avec eux leurs Églises. Face à tous ces maux, le mot d'ordre est donc le sens de la communion au sein de chaque Église et entre Églises, comme l'a souligné le cardinal Ouellet. sans une vraie fortunité, il n'y a pas d'action, ni missionnaire, ni sociale, a-t-il ajouté. Le fait que ce congrès sur l'Amérique latine se déroule au Vatican montre aussi la sollicitude universelle d'Églises qui représente plus de 50% des catholiques du monde entier dans la fidélité au successeur de Pierre, a conclu le président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine. Certes, il ne s'agit pas de trouver des solutions concrètes à tous les problèmes évoqués, ni même de leur donner une réponse politique, mais de les affronter à la lumière de la mission de l'Église. Et l'unité ou le sentiment d'appartenance à une même communauté semble être déjà le premier pas à franchir pour l'Église américaine, de l'Alaska à la Terre de Feu.
Xavier Sartre. Nous constatons chaque jour cette inexistence de l'indépendance de notre pays. Dans une lettre pastorale, les évêques malgaches interpellent les responsables politiques de leur pays. L'épiscopat cite quelques exemples de la manière dont l'indépendance nationale est compromise. Spoliation des richesses nationales par le biais de contrats injustes au profit d'intérêts économiques étrangers. Règne de l'anarchie, population livrée à elle-même et privée de moyens, justice à deux vitesses. Et la liste est encore longue. Les représentants politiques affirment les évêques ne regardent le plus souvent que leurs intérêts personnels et non ceux de notre pays, alors que l'affrontement entre les deux présidents, Radzoel et Ravalomanan, est qualifié de lutte fratricide qui prend le peuple en otage. Les évêques concluent leur lettre par un appel à la vraie conversion des cœurs. En France, les paroles de Cécile Duflot, ministre du Logement, ont fait les choux gras des médias ces jours-ci. Sa remise en cause explicite de la présence et de l'implication de l'Église dans le domaine de la solidarité ont suscité la stupeur et l'indignation. Ainsi pouvait-on lire dans les colonnes du quotidien Le Parisien « Je souhaite faire appel à toutes les bonnes volontés, faire appliquer la loi à tout ce qu'elle concerne. Par exemple, il semble que l'archevêché de Paris possède des bâtiments quasi vides. Je viens donc de leur écrire pour voir avec eux comment utiliser ces locaux. » Cette sommation à l'archevêché de Paris s'est accompagnée d'une menace de réquisition. L'attaque a fait bondir de nombreux catholiques, mais l'Église n'a pas attendu la menace de réquisition brandie par la ministre pour prendre des initiatives, a répondu l'archevêché de Paris. Monseigneur Bernard Potvin, porte-parole de l'épiscopat français, tient à apaiser cette polémique. Ce qui compte pour lui, c'est bel et bien le service des pauvres.
D'abord, je dirais que j'apaise profondément la polémique, parce que l'essentiel, c'est le service des pauvres, et l'Église catholique n'a pas à rougir de ce qu'elle fait déjà depuis très longtemps. Elle n'a pas attendu ce lundi matin et cette déclaration fracassante pour agir. Tous les catholiques qui œuvrent vraiment dans la proximité caritative peuvent le dire, et je peux vous dire que depuis 48 heures, on assiste à une médiatisation très forte et positive de ce que fait l'Église. L'Église a un rôle social qui est reconnu, et vraiment des personnes qui parfois n'ont pas une bienveillance d'image envers l'Église nous le redisent. Et même certains mini-sondages sont en train de le signaler. Donc c'est bien le signe que vraiment la présence de l'Église est engagée et que, indépendamment de ce que répondrait très librement le cardinal 23, et c'est à lui de le faire et pas à moi évidemment, pour la question plus parisienne, moi, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de toute l'Église en France, il y a vraiment convergence d'un effort. Les congrégations sont prêtes à poursuivre l'effort, à l'intensifier. Le Secours catholique est très présent aussi. Nous avons des chiffres qui le démontrent. Et il faut surtout maintenant dépasser la polémique pour avancer vers Noël dans un combat qui est à livrer vraiment contre cette pauvreté. Il faut voir vraiment la force d'âme de l'abbé Pierre qui savait nous secouer tout en encourageant ce qui déjà se vivait, qui disait c'est déjà très bien ce que vous faites, allez encore plus loin. C'est dans ce sens-là que je réagis.
Monseigneur Potvin, porte-parole de la Conférence épiscopale de France, au micro de Manuela Figi. Et puis autre réaction suite à cette polémique, celle de Natalia Trouillet, journaliste à l'hebdomadaire La Vie. Pour elle, les propos de Cécile Duflot sont regrettables, mais ils ne sont surtout qu'un rideau de fumée.
Ce que fait l'Église catholique en matière de logement, que ce soit d'urgence ou sur le plus long terme, répond de lui-même à Madame Duflot. Le problème, il n'est pas tellement là. Le problème, il est qu'on a un peu l'impression, si vous voulez, qu'il est question de vouloir absolument faire en sorte de noyer un petit peu le poisson politique pour parler d'autre chose, alors que la présence des écologistes dans le gouvernement français pose question au sein même de cette formation.
Est-ce qu'il faut situer ces propos dans un contexte de catophobie ambiante, comme l'appellent certains ?
Je crois qu'il faut manier le terme de catophobie avec beaucoup de précautions, hein, parce que quand on va dans des pays comme le Pakistan ou le Nigeria, là oui, on peut parler de catophobie, c'est clair. Ici, c'est pas de la catophobie, c'est simplement que, il y a une chose qui est certaine, c'est que le gouvernement apprécie très peu le fait que l'Église catholique se mêle des questions sociétales qui s'agite en ce moment. Mais je suis pas sûr qu'il faille y voir vraiment une réponse du berger à la bergère. Je vous dis, moi, je suis frappé par le fait que Madame Dufour, en fait, ait lancé cette lettre et cette polémique le jour même où François Hollande rencontrait son homologue italien et allait parler du TGV Lyon-Turin. On sait que les Verts là-dessus, sont très divisés. En arrière-fond, il y a l'affaire Notre-Dame-des-Landes. Le gouvernement auquel appartient Madame Duflot pousse un projet d'aéroport auquel elle est opposée, etc. Voilà. Enfin, moi, j'ai plus l'impression qu'il s'agit finalement de donner aux médias un chiffon rouge à suivre plutôt que de regarder les divisions réelles au sein du gouvernement.
Donc, selon vous, ces propos ne seraient en fait qu'un rideau de fumée ?
C'est un rideau de fumée et puis c'est un peu vain. Et moi, je suis assez peiné non seulement pour les personnes qui, sur le terrain, s'occupent des personnes sans abri. Et on sait qu'il y a énormément de catholiques. Il n'y a pas que des catholiques. Il y a nos frères protestants qui sont aussi très actifs. Il y a les communistes qui sont très actifs à travers, par exemple, le Secours Populaire. Moi, j'attends toujours que Europe Écologie Les Verts fonde une seule association d'aide aux sans-abri. Pour l'instant, je n'en connais pas. Et je trouve ça très triste de faire ça sur le dos du mal-logement, qui est un problème réel, qui est un problème grave. Et effectivement, on pourrait commencer par regarder dans le parc immobilier de l'État ce qu'il est possible de faire avant de pointer du doigt l'Église catholique qui fait sa part dans le domaine, qui ne fait pas toute sa part parce que nous avons justement une responsabilité supplémentaire. Et quelque part, je suis heureuse que Madame Duflot nous rappelle que nous, les chrétiens, nous ne faisons jamais assez. Et ça, c'est une très bonne chose après tout. Si on peut se dire, grâce à cette histoire, qu'effectivement, on pourrait faire plus, mais qu'on ne le fait pas, eh ben, écoutez, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle.
Des propos recueillis par Manuela Affigy. Thésée se déplace à Rome. La prochaine rencontre européenne de jeunes aura lieu dans la capitale italienne du 28 décembre 2012 au 2 janvier 2013. Le programme officiel de la rencontre a été présenté ce mardi au vicariat de Rome, en présence notamment du maire de la capitale italienne et du cardinal vicaire du diocèse de Rome, Mgr Valigny. Cette rencontre, préparée par la communauté de Thésée, va rassembler des dizaines de milliers de jeunes pour une nouvelle étape du pèlerinage de confiance sur la terre commencé par frère Roger à la fin des années 60. Des jeunes de toute l'Europe et d'ailleurs seront accueillis par les familles et les communautés religieuses de la région romaine, catholique et des autres églises présentes à Rome. Ils seront invités à faire un pèlerinage auprès du tombeau de l'apôtre Pierre et dans les catacombes, à prier dans les grandes basiliques et à rencontrer le pape. Pour nous en parler, frère David, l'un des frères de la communauté de Thésée qui participera à ce pèlerinage.
C'est une grande joie pour nous de retourner à Rome depuis 25 ans. Quand la dernière rencontre de Rome avait eu lieu en 87, et puis surtout cette année que nous célébrons l'année de la foi, inviter des jeunes de toute l'Europe à venir en pèlerinage aux sources de la foi et de la charité, c'est très symbolique.
Quelles seront les particularités de ce pèlerinage ?
Nous appelons ces rencontres européennes un pèlerinage de confiance sur la terre. Et les jeunes viennent comme pèlerins, des jeunes pèlerins qui se mettent en chemin, qui quittent la routine de leur vie de tous les jours pour venir à la rencontre de Dieu et à la rencontre des autres. La première particularité peut-être, c'est l'accueil dans les familles et les paroisses. Nous sommes maintenant une équipe d'une trentaine de personnes à Rome qui visitons tous les jours les paroisses. Des petits groupes de préparation se sont formés dans chaque paroisse pour préparer l'accueil au niveau local. Et puis les jeunes seront accueillis, logés dans les familles, dans des conditions très simples, mais pour un vrai partage avec les communautés, avec l'Église de Rome, seront accueillis dans les familles, auront pendant la rencontre une prière du matin dans les paroisses et des petits groupes de partage, où nous invitons non seulement les jeunes pèlerins qui viennent de l'extérieur, mais aussi les paroissiens, les Romains, les gens qui peuvent venir donner leur petit témoignage, parler de leur engagement, de leur vie de foi ici à Rome.
Combien de personnes sont attendues ?
Nous attendons, nous ne savons pas encore, les inscriptions sont encore ouvertes, mais autour de 40 000 jeunes qui viennent de l'extérieur. Et puis il y a aussi la participation locale de Rome. Et donc le programme du matin, comme je viens de dire, sera dans les paroisses. Et l'après-midi, ça sera dans le centre-ville. Il y aura des prières en début et en fin d'après-midi, à 14h et à 19h30, dans les grandes basiliques. Et les jeunes iront chaque fois à une église différente, prier dans une église différente. Donc ils vont faire un pèlerinage à travers les grandes basiliques de Rome pour ces prières communes. Le 29 décembre, donc au début de la rencontre, tous seront accueillis pour la prière commune à la basilique Saint-Pierre pour une prière avec le pape Benoît XVI. C'est très beau qu'au début de la rencontre, il y a ce geste d'accueil et puis un message de la part du Saint-Père. Dans l'après-midi, entre les deux prières, il y aura chaque jour des rencontres à thème, des carrefours, Et dans ces carrefours, il y aura des visites aux catacombes, une visite à des musées, des concerts, aussi des carrefours avec la Caritas, avec des initiatives sociales, avec le centre d'accueil aux réfugiés. Et puis aussi des carrefours bibliques avec des thèmes plus spirituels, de recherche autour d'un thème biblique. Et chaque participant pourra choisir le thème qui va plus à la rencontre de sa propre recherche. Comme ça, on donne une variété de thèmes et chacun peut choisir pour aller, comme on disait, aux sources de la foi et de la charité. Donc parler avec des jeunes qui viennent d'ailleurs et puis des gens de Rome qui donnent leur témoignage sur comment vivre la foi dans le monde d'aujourd'hui.
Au mois d'octobre dernier a eu lieu au Vatican un synode sur la nouvelle évangélisation. Comment vous percevez cette nouvelle évangélisation ?
Il y a un très beau texte déjà qui a été publié, un très beau message, très riche, et qui invite, je pense, tous à chercher comment aider les gens d'aujourd'hui à une vraie rencontre avec le Christ, une rencontre personnelle, vécue dans l'Église, et puis qui nous ouvre aux autres à un engagement de charité. Alors je pense que ça va vraiment dans le sens de ce que nous cherchons à faire aussi pendant ces rencontres. Inviter les jeunes à venir chercher sur leur vie, comment ils se positionnent dans la vie, comment ils comprennent leur vie, le sens de leur vie, et puis le faire non d'une façon un peu théorique, disons, mais dans le concret, en rencontrant d'autres jeunes qui sont là, à la recherche, qui n'ont pas forcément les réponses à toutes les questions, qui ont souvent aussi beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, qui savent pas bien comment vivre la foi, comment comprendre la foi, mais qui cherchent, qui sont ouverts à quelque chose. Et puis faire cette recherche aussi avec des gens qui nous accueillent ici, à Rome, qui peuvent parler de leur propre engagement, de leur propre vécu. Cela me semble très, très riche.
Vous suivez ces rencontres, ces pèlerinages depuis plusieurs années. Ces jeunes viennent pour l'essentiel d'Europe. Comment a évolué le discours à l'égard de ces jeunes dans une Europe qui est fortement sécularisée ?
Pour les jeunes, c'est de plus en plus difficile déjà de se dire chrétien. On voit que beaucoup vivent dans une société, dans un entourage qui parle peu de Dieu, qui parle peu de la place de la foi, et même d'une vie intérieure, du spirituel, du désir d'un au-delà qui est présent en tous et pour lequel on trouve souvent difficilement les mots pour en parler. Et alors les jeunes, quand ils arrivent à ces rencontres, ils voient une foule de jeunes dans les mêmes conditions. Tout à coup, il y a une ouverture qui se fait. Ils peuvent parler naturellement de Dieu, ils peuvent parler naturellement de leur soif, de leur désir, de leurs aspirations intérieures. Ils peuvent parfois tout simplement se mettre en silence, prier en silence et retrouver ce qui est à l'intérieur d'eux-mêmes. Et il y a une soif de cela. Il y a une soif justement parce qu'on disait dans nos sociétés aujourd'hui, il y a peu de place pour cette intériorité. On a besoin les uns des autres pour se soutenir dans cette recherche.
Le frère David au micro d'Olivier Tosseri. Un entretien retrouvé sur notre site internet www.radiovaticana.va. Non à de nouvelles coupes dans les prestations sociales, non à la réduction ou à la parcellisation dans l'attribution des allocations familiales, non à une nouvelle diminution des aides aux pays en voie de développement. Voilà en résumé les trois requêtes que la Conférence épiscopale d'Irlande présente au gouvernement. Dans un message conjoint signé par le Comité épiscopal pour la justice et la paix et le Comité épiscopal pour la recherche et le développement, il demandait aux institutions de créer une société dans laquelle le respect de la dignité de chaque personne, la solidarité et le bien commun représentent des valeurs fondamentales. Nouvelle attaque contre une chrétienne au Pakistan. Une missionnaire laïque protestante a été victime d'un attentat et se trouve en condition critique à l'hôpital Jinnah de Lahore, capitale du Punjab. Bargheta Almby, 72 ans de nationalité suédoise, se trouvait à bord de sa voiture lorsque deux hommes armés en motocyclette se sont approchés, ouvrant le feu à plusieurs reprises et l'atteignant au thorax. L'attentat a eu lieu ce lundi à Lahore. La missionnaire œuvre au Pakistan depuis plus de 38 ans et elle était pleinement intégrée à la communauté. Elle est responsable des programmes sociaux d'une église chrétienne, la Full Gospel Assemblies of Pakistan. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour un nouveau magazine de Radio Vatican.